CQFD. Sur RTS, la première.
C'est dans le cadre d'Octobre Rose, un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, que nous allons maintenant nous pencher sur ces moments cruciaux que sont le diagnostic, mais aussi la suite, un quotidien bouleversé à tous les niveaux, Anne Bécher, et pour l'entourage aussi, notamment les enfants.
Oui, et cela nous permettra également d'explorer et de découvrir les différentes ressources qui existent pour traverser ces moments qui semblent irréels psychologiquement. Prenez Ghislaine, qui est maman de deux enfants de 6 et 9 ans au moment de l'annonce et qui dit: la charge mentale la plus difficile était de savoir comment ne pas affecter mes enfants moralement. Je ne voulais pas passer de la maman hyper présente à la maman malade.
Ghislaine Lachkar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Genève. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés se trouve Gwenaëlle Herrero. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là également. Vous êtes infirmière, clinicienne en oncologie et responsable de soutien auprès de Résiliam à Genève. Résiliam qui est une organisation spécialisée dans le soutien des familles, plus particulièrement auprès des enfants et des jeunes dans ces situations-là. Mais on va d'abord se tourner vers vous, Ghislaine Lachkar. Vos enfants avaient 6 et 9 ans à ce moment-là. Et vous-même, quel âge est-ce que vous aviez lorsque le diagnostic de cancer du sein a été posé?
Alors, au moment où le diagnostic a été posé, j'avais 37 ans.
Mmh. Est-ce que vous voulez bien nous raconter les moments de cette annonce, peut-être avant, pendant, après?
Oui. Alors, effectivement, l'annonce, pour moi, je la décrirais comme étant été faite en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu, donc, avec le radiologue, le visage qui se ferme au moment où il me dit qu'il faut faire une biopsie. Et là, on comprend déjà qu'il y a quelque chose qui va pas. Il me dit que les résultats allaient être donnés plus tard, enfin, par la gynécologue.
Mmh.
Donc le soir même, on a la gynécologue qui me téléphone, qui me dit qu'elle a toujours pas les résultats, mais qui me demande de me présenter le jour d'après avec un proche ou mon mari. Ou... Et là, on se dit oui, d'accord. Mm-hmm. Donc on commence à prendre conscience petit à petit de la gravité en fait de ce qui va se passer. Après, elle dit qu'elle a toujours pas les résultats, donc on garde quand même un espoir.
Mm-hmm.
Et après, il y a le jour d'après qui est un jour intermédiaire. Et jusqu'au moment où on a le rendez-vous, qu'elle nous annonce qu'effectivement, c'est un cancer.
C'était quoi les mots utilisés?
Je pense que c'était « je suis désolée, c'est un cancer ».
Ok. Alors, vous aviez moins de 40 ans, pas d'antécédents dans la famille. Je suppose que la surprise s'est mêlée au choc à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Le choc, je pense, comme toute personne qui reçoit ce genre de diagnostic, mais encore plus, car la veille, j'étais allée sereine à mon rendez-vous de radiologie,
mmh.
J'avais eu deux autres rendez-vous en 3 mois. Donc au moment où j'ai senti une boule dans le sein, il s'est découlé 3 mois avant d'avoir le diagnostic. J'ai vu 2 radiologues qui m'avaient dit que c'était sûrement soit un kyste. La deuxième fois, on m'a dit que c'était peut-être une infection. On m'a pas fait de mammographie. Le critère de l'âge a été donné quand j'ai voulu avoir des explications, alors que ça ne devrait plus. Et donc la troisième fois, j'ai failli annuler mon rendez-vous. Et ça me reste beaucoup en tête. C'est que je me dis qu'il y a d'autres femmes qui peut-être ont été rassurées aussi, qui ont annulé ce rendez-vous et qui ont encore retardé encore plus leur prise en charge.
Mmh.
Donc,
ouais.
Voilà.
Donc, tout ça parce que vous aviez moins de 40 ans. Probablement, vous aviez mentionné aussi qu'il n'y avait pas d'antécédents dans la famille. Ils
n'étaient
pas plus inquiets que ça.
Mais
j'imagine, là, il y a eu de la colère aussi après le choc. En se disant, mince, mais j'aurais pu gagner du temps, là, sur ces 3 mois.
Alors, c'était une grande incompréhension, mais sur le moment, la colère est venue un peu plus tard, quand on prend conscience de ce que ça veut dire, avoir eu un diagnostic un peu plus tardif. La tumeur était plus grande, les ganglions étaient touchés. On se demande toujours, est-ce que 3 mois plus tôt, la situation aurait changé, donc le pronostic aussi.
Mm-hmm.
Donc, il y a cette question, peut-être pas ou peut-être que oui, et ça reste en suspens. Et après, j'ai eu beaucoup... En fait, cette colère m'a aussi poussée à aller vers le milieu associatif pour que ça ne se... essayer de faire passer le message pour que ça se reproduise le moins possible, que les femmes, si elles ont un doute, d'aller jusqu'au bout, et que la mammographie doit être aussi proposée en cas de doute, et de ne pas prendre le critère de l'âge comme étant maintenant, voilà, ou aller tout de suite vers un diagnostic qui est plus qui n'est pas du cancer. Donc c'est là, enfin, d'où j'ai intégré l'association Savoir Patient, qui traite aussi de cette problématique.
Oui. J'aimerais vous faire revenir, et merci d'accepter de faire cet exercice. Je peux imaginer qu'à la sortie du cabinet, donc de votre gynécologue qui vous a dit c'est malheureusement un cancer, les questions se bousculent dans votre tête. Vous vous souvenez de vos premières préoccupations?
Alors, à la sortie du cabinet, on est un peu comme anesthésié, mais de la mauvaise manière. Et puis, petit à petit, effectivement, des préoccupations viennent... ceux qui sont liés à la maladie, donc on ne sait pas tout de suite tout. Il y a plusieurs examens, on doit d'abord savoir s'il y a des métastases, etc. Et on se préoccupe si ça va être traitable ou pas. Et la deuxième, c'est concernant les enfants, dans mon cas, voilà, comment ne pas les impacter.
Et alors, aussi... Seulement.
Oui, et puis aussi par rapport au fait... j'avais aussi la grande préoccupation de qu'ils grandissent sans moi, on va dire.
Et alors justement, on parlait de ce moment de l'annonce. Comment est-ce que vous en avez parlé à vos enfants et à quel moment, quand?
Quelques jours avant ma première chimio, je voulais d'abord avoir toutes les informations concernant mes traitements pour pouvoir leur dire des choses assez justes. Mais je ne leur ai pas dit tout de suite que que c'était un cancer. J'avais peur du mot. J'ai dit maladie. Et c'est après que j'ai contacté l'association Résiliam avec qui on a pris en charge cette partie-là. Et là, on a annoncé que c'était un cancer. Mais j'ai d'abord dit que c'était une maladie qui allait me donner plusieurs effets secondaires.
Mmh. Dans cette période-là, il y a quelque chose d'irréel, disiez-vous. Par exemple, le matin, vous étiez chez la sénologue et le soir, il fallait discuter des cours d'allemand à l'école entre la lourdeur et la légèreté. C'est ça, vous le confirmez?
Tout à fait. Alors ça, c'était venu plus tard, au moment de l'opération, mais aussi au début. Si on peut mettre en pause notre vie professionnelle, notre vie sociale, notre vie, on va dire, maritale aussi, on peut pas mettre en pause notre vie familiale. Les enfants, ils continuent à vouloir qu'on leur lise l'histoire le soir, qu'on aille les chercher à l'école, qu'on les emmène à l'anniversaire et on est pris par tout cet engrenage, rendez-vous médicaux, préoccupations, mais à la fois, on doit continuer justement. C'était un exercice difficile et des fois qui pouvait aussi nous aider.
Mmh. Alors justement, il y a, justement avec les traitements, avec les examens, l'agenda bouleversé, etc., il y a les jours avec et les jours sans, c'est marathonien, il faut se rendre compte. On a sa propre bataille à mener, mais on reste pas moins un être aimant et aimé. Comment est-ce que vous avez fait, par exemple, pour gérer les inquiétudes de votre entourage, de vos enfants notamment?
Alors, de mon entourage, effectivement, il y a eu beaucoup d'humour, même à des moments très difficiles. On essayait de tourner des fois les choses un peu à la rigolade. Mais avec les enfants, j'ai essayé de faire comme si de rien... Enfin, pas de rien n'était, mais j'ai essayé de garder un semblant de normalité. Et aussi le fait d'aller à l'association Résiliam, j'ai utilisé des outils. Ils m'ont aidé à aussi avoir les mots. C'est un accompagnement que j'ai choisi. Mais vis-à-vis de l'entourage, bien sûr, il y a aussi mes parents que j'ai voulu protéger. On essaye un petit peu de composer avec chaque sensibilité, chaque personne de notre entourage.
Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est aussi dans chaque moment. Vous êtes pharmacienne une année avant le diagnostic avec une associée. Vous avez décidé de reprendre une pharmacie, donc de gérer une entreprise. C'est pas rien. Et là aussi, tout a été bouleversé. Vous avez eu peur pour vos projets d'entreprise. J'imagine que ça, c'était une inquiétude supplémentaire.
Alors, sur le moment, pas vraiment, parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus important. Même si mon projet était... pour moi, c'était le bébé. Après, c'était plus du tout dans ma ligne de mire. J'étais focalisée sur ma propre survie. Le diagnostic était que mon cancer était assez agressif. Donc, c'était pour moi disons que le côté professionnel est passé en second.
Oui, j'imagine que c'est le genre de moment où vos priorités sont un peu chamboulées, elles
oui,
changent. Merci Ghislaine Lachecker pour votre témoignage.
Merci à vous.
On parle de cancer du sein aujourd'hui avec un focus sur les moments de l'annonce du diagnostic et les conséquences qui en découlent sur le quotidien des personnes, de la personne concernée, mais aussi de son entourage et des enfants notamment. Nous avons entendu votre témoignage, Ghislaine Lachecker. Nous allons maintenant parler de ces moments avec vous, Gwenaëlle Herrero. Vous êtes infirmière clinicienne en oncologie et responsable de soutien auprès des familles, plus particulièrement auprès des enfants et des jeunes dans ces moments-là, dans ces situations. Vous travaillez auprès de l'organisation Résiliam à Genève. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que Résiliam et quel est votre rôle en tant qu'infirmière dans ces situations-là ?
Tout à fait. Résiliam est une association qui a 11 ans. Elle a été créée par une infirmière, Marie-Dominique King, et une psychomotricienne, Marie-Christine Ray, et nous fonctionnons encore en binôme. Nous soutenons les enfants et les jeunes de 0 à 24 ans qui vivent avec un proche gravement malade, qui ont un proche décédé ou un frère ou une sœur en situation de handicap. Nous faisons du soutien individuel, en famille et aussi des groupes. Tout ce que nous proposons est gratuit, que ce soit les séances ou bien le matériel, car nous vivons de dons.
Mmh. Alors, vous avez entendu le témoignage de Ghislaine qui est à côté de vous. Vous l'avez accompagnée durant cette période entre son témoignage et ce que vous vivez avec d'autres familles. J'imagine qu'il y a plusieurs choses qui se retrouvent, même si chaque situation, évidemment, est différente. Qu'est-ce qu'il y a en commun ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes ces situations ?
Nous remarquons que les parents, ils ont peur, ils ont la crainte de nommer les choses. Parce que pour un parent, cancer, c'est souvent associé à la mort. Et donc nous expliquons que les enfants ont des représentations différentes de ce mot cancer. Ils ont aussi la grande envie de protéger leurs enfants, de pas qu'ils souffrent de cette situation-là. Mais parfois, l'envie de protéger, en ne disant pas, en ne pleurant pas devant son enfant, en n'expliquant rien du tout, ça va faire le contraire.
Mmh.
Les enfants, même si les mots ne sont pas posés, ils vont ressentir le stress des parents ou du parent malade, ils vont ressentir plein de choses et de pas mettre de mots là-dessus, ça va encore plus les stresser.
On va détailler ça. Alors, vous voyez les parents pour une première rencontre, qu'est-ce qui se passe lors de cette première rencontre dans cette situation-là ?
Alors c'est vrai que ça dépend parce que chaque entretien est différent. La première rencontre, c'est vraiment pour créer un lien avec les parents, qui puissent se présenter et que nous aussi, on présente ce qu'on fait à l'association. Et puis c'est aussi de pouvoir entendre le témoignage du vécu de la famille et de cette période difficile pour avoir un peu une vue globale, une vision globale de ce qui se passe.
Mmh. Et il y a un deuxième rendez-vous, vous voyez les parents avec les enfants, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on parle de ce diagnostic aux enfants ?
Alors, la plupart du temps, oui. C'est important aussi avec les enfants de pouvoir créer un lien de confiance. Donc, de nouveau, on va se présenter, on va leur demander de se présenter aussi. Et dans les situations de maladie, lors de ce premier entretien, nous allons prendre un temps pour donner des explications aux enfants sur la maladie.
Mmh.
Sur... À l'aide de livres d'anatomie, c'est vraiment de, voilà, c'est quoi le corps humain, comment fonctionne une cellule, comment une cellule peut devenir cancéreuse, et ensuite parler des traitements, des effets secondaires, et aussi des émotions que ça peut faire vivre.
Oui, mais justement, mettons, puisque c'était le cas, là, on peut expliquer un cancer du sein à un enfant de 6 ans ?
On peut, je dirais même on doit. C'est vrai que pour nous, ben, on va adapter le langage à l'âge de l'enfant. Mais bien sûr, un enfant de 6 ans peut tout à fait comprendre ce que c'est le cancer et on va lui l'expliquer pour qu'il comprenne.
Alors, on dit des fois que les enfants posent les questions quand ils sont prêts à entendre les réponses. Est-ce qu'il faut attendre les questions ou est-ce que justement, c'est pas forcément la bonne attitude à adopter dans ces cas-là ?
Alors, je dirais que ça dépend un petit peu. Dans une situation où il y a eu un diagnostic, nous, on pense que c'est important de nommer les choses, donc de dire la vérité et de nommer le cancer, ce qui est en train de se passer. Mais ensuite, on va pas anticiper les questions des enfants. On va vraiment aller à leur rythme. S'ils posent des questions, une fois qu'on aura expliqué ce qui se passe, on leur répondra, mais on va pas anticiper les questions. Et pour certains enfants qui ont peut-être plus de peine à verbaliser les choses, nous avons la chance de travailler avec des psychomotriciennes et il y a différents outils qu'on peut utiliser sans passer par la parole, plutôt passer par le corps.
Oui, parce que vous me disiez qu'il y a aussi des enfants qui ne posent pas des questions à leurs parents pour les protéger.
Oui,
alors,
tout
voilà.
À fait.
Mais alors il y a cette question redoutable parce que les enfants sont parfois bruts de décoffrage, veulent savoir où ils en sont. Comment répondre à un enfant qui vous demande si vous allez mourir ?
Oui. D'ailleurs, dans la situation de Ghislaine, son fils vous a assez rapidement posé la question de est-ce que vous allez mourir. Alors, de nouveau, il n'y a pas de réponse toute faite dans ces situations-là. En général, c'est tout un processus et on va plutôt au début parler de voilà, la maladie a été plus forte que les médicaments, elle a pris la force de ton parent. Et suivant dans certaines situations, dans quelle stade de la maladie en est le parent, dans quel état général il est. Oui, on va pouvoir dire à un enfant que son parent va mourir, mais c'est un petit peu difficile à faire une phrase toute faite comme ça.
Un traitement, notamment un cancer du sein, c'est parfois, et c'est vrai, un long marathon avec des victoires, mais aussi des découragements, des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il y a des manières d'annoncer les mauvaises nouvelles, des mauvais résultats, et les victoires aussi ?
C'est vrai que nous, on a la chance d'accompagner les familles tout au long de ce processus-là. Et c'est vrai quand il y a un examen, par exemple, que vous êtes en attente de résultats, Ghislaine, par exemple, on sent le stress qui est là. Et soit la famille prend le temps d'en parler avec les enfants, soit nous, on prend un rendez-vous à Résilien pour préparer ce moment-là, que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise. Mais de nouveau, dire les choses simplement, avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant.
Alors, quelque chose que je voulais vous demander, peut-être à toutes les deux, traverser une épreuve comme celle d'un cancer, ça vous change en tant que personne ? Est-ce que ça vous change aussi en tant que parent ?
Oui, alors comme ça nous change en tant que personne, intrinsèquement, ça nous change aussi en tant que parent. On est plus, en fait, même si on était présent, le moment, on le sent encore plus. C'est-à-dire, on est encore plus présent mentalement. La vie en général prend une autre saveur, je dirais, de temps en temps, parce qu'on revient souvent à la réalité assez rapidement, mais c'est comme si on se rendait compte un petit peu vraiment des choses.
Voilà. Et vous, Madame Herrero, c'est aussi quelque chose que vous observez chez les gens que vous suivez, que ça les transforme peut-être aussi en tant que parents ?
Oui, absolument. Et en tant que personne, en tant que parent, et je pense qu'aussi dans la situation de Ghislaine, vous avez pu voir l'importance de dire les choses aux enfants, oui. De dire la vérité, comme ça peut apaiser et rassurer.
Tout à fait, oui.
Et vous, Ghislaine, si vous pouviez parler à la personne que vous étiez avant d'avoir ce diagnostic, est-ce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui, vous voudriez lui dire qui pourrait l'aider peut-être ?
Alors... Je lui ferai un grand câlin déjà.
Ça lui ferait du bien sûrement.
Et puis j'aurais envie de lui dire une simple phrase, ça va aller.
Ça va aller.
Voilà.
Ouais. Bon, et alors à toutes les Ghislaine, Lashkar et autres personnes qui reçoivent un diagnostic, j'espère qu'elles reçoivent votre message et le câlin qui va avec. Merci en tout cas beaucoup à toutes les deux d'être venues partager vos expériences respectives avec nous. Vous, Ghislaine Lashkar, en tant que personne directement concernée et membre du comité patients et patientes et du réseau cancer du sein de l'association Savoir Patient, dont vous nous parliez tout à l'heure. Et vous, Gwenaëlle Herrero, en tant qu'infirmière clinicienne en oncologie et responsable de soutien auprès de Résiliam à Genève, une organisation spécialisée dans le soutien des familles. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci. Bonne journée,
merci. Aussi.
Vous étiez invité par Anne Becher.
CQFD à 10h sur RTS La Première.